VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. En République centrafricaine, des affrontements meurtriers ont opposé ce week-end des groupes armés à Bria. D'après des témoins, ces heurts ont fait au moins 4 morts et plusieurs blessés. Un bilan non confirmé par la mission de l'ONU dans le pays, la MINUSCA. Des dizaines de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile. Il s'agissait d'affrontements entre les anti-Balaka et le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, avec des pertes dans les deux camps, selon le porte parole de la MINUSCA, Vladimir Montero. Les forces de sécurité centrafricaines et la police de la MINUSCA ont pris des mesures de sécurité et sont en alerte dans la ville, d'après ce porte-parole. Revenons ce matin sur les derniers développements en République démocratique du Congo en vue de la présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Le MLC, le parti de l'ex-chef de guerre et opposant Jean-Pierre Bemba, compte déposer un recours devant la Cour constitutionnelle d'ici demain matin après le rejet de la candidature de Bemba. Ses partisans ont promis de se mobiliser par tous les moyens. Au total, la commission électorale a écarté 6 candidats sur les 25 qui avaient déposé leur dossier. De Kinshasa, Thierry Kambundi de notre station partenaire Top Congo FM.
L'opposition à travers ses candidats président de la République a aussitôt réagi. À travers une communication lue notamment par Martin Fayoulou, elle a clairement accusé le pouvoir d'être à la base de la mise à l'écart des candidats de l'opposition, notamment Jean-Pierre Bemba. S'en sont suivies tout le week-end de nombreuses déclarations des candidats et partis politiques concernés, notamment Adolphe Mouzito, pour qui le camp du président Kabila élimine les opposants pour se frayer un chemin vers une victoire facile. Les Kinois interrogés sont, eux, partagés entre l'instrumentalisation de la CENI par la coalition au pouvoir évoquée par les opposants et la voie de recours à suivre par les candidats invalidés.
Pour moi, c'est une entorse déjà au processus électoral. C'est comme si la majorité veut se choisir ses candidats.
De mon point de vue, je pense que il était prévisible que certains dossiers qui avaient des litiges soient invalidés. Mais il y a une grande étape qui est prévue dans le calendrier publié par la CENI, la voie des recours. Les opposants ne doivent pas perdre l'espoir. Attendons voir et faisons confiance à la justice.
Le suspense est donc maintenu jusqu'au 19 septembre prochain, jour de la publication des listes définitives. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et pour clore ce dossier RD Congo, sachez que le procès de l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda touche à sa fin près de 3 ans après ouverture des débats devant la Cour pénale internationale. L'accusation et la défense prendront la parole pour la dernière fois à partir de demain, mardi. L'ex-rebelle, autrefois surnommé Terminator, avait plaidé non coupable en septembre 2015 des 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité qui lui sont reprochés. Au Mali, le bras de fer continue entre l'opposition et le président réélu Ibrahim Boubacar Keïta. Des partisans du candidat Soumaïla Cissé, officiellement battu à la présidentielle par Ibeka, se sont à nouveau mobilisés ce week-end dans les rues de Bamako pour contester les résultats de ce scrutin. Kassim Traoré.
C'était le rappel des militants et des sympathisants pour une énième marche contre la fraude, marche au cours de laquelle le chroniqueur Aras Bach indexe la communauté internationale.
Les observateurs de la CDAO ont manqué à leur devoir de crédibilité. Les observateurs de l'Union européenne ont privilégié les intérêts européens au respect des droits de liberté de la démocratie malienne.
Pour les partisans d'Ibrahim Boubacar Keïta, il n'y a que les urnes pour accéder au pouvoir. Ousmane Kolandaou, membre du directoire de campagne de Ibrahim Boubacar Keïta.
J'appelle tout un chacun à savoir et raison garder. Au Mali, aujourd'hui, depuis mars 91, on ne peut accéder au pouvoir que par les urnes. Et nous croyons aujourd'hui que toutes les procédures légales ont été bouclées. Nous croyons qu'au sens républicain de l'opposition, pour dire chacun de nous se bat pour construire le pays. Et nous souhaitons vraiment qu'il y ait le bon sens d'accepter ces résultats et qu'ensemble, nous construisons le pays.
Devant 50 000 personnes réunis sur le boulevard de l'indépendance, Soumaïla Cissé a fait savoir que les marches de l'opposition sont pacifiques. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a prêté serment hier en appelant ses compatriotes à tourner la page des élections jugées frauduleuses par l'opposition et à se mettre au travail pour redresser tous ensemble son économie en ruine. Âgé de 75 ans, Emmerson Mnangagwa a pris la tête du Zimbabwe en novembre dernier après la démission de Robert Mugabe, lâché par l'armée, son parti au pouvoir, la ZANU-PF, au terme d'un règne autoritaire de 37 ans. Après l'Afrique du Sud, la Namibie veut engager une réforme agraire. D'après le président namibien Hage Geingob, cette réforme autorisera les expropriations afin de corriger les inégalités foncières héritées de l'époque coloniale. Nathalie Barge.
La Namibie tiendra en octobre une conférence nationale sur la terre, a déclaré Hage Geingob lors d'une cérémonie commémorant les héros du pays. La conférence doit notamment examiner la politique de redistribution sur la base du volontariat, les demandes de restitution des terres ancestrales et l'expropriation avec une juste indemnisation. Depuis son indépendance en 1990, la Namibie a engagé une politique de transfert des terres sur la base du volontariat des propriétaires qui n'a eu que peu d'effet. Il y a 2 ans, les autorités avaient indiqué que la quasi-totalité des terres agricoles était encore détenue par des étrangers. Monsieur Geingob a toutefois rappelé son refus catégorique des évictions forcées. Son annonce intervient alors qu'un projet de réforme agraire suscite de vives tensions en Afrique du Sud, où le gouvernement veut autoriser les expropriations sans indemnisation.
Émoi et mobilisation au Maroc après le récit du calvaire d'une adolescente de 17 ans, Khadija Okarou, affirme avoir été kidnappée, violée et martyrisée il y a 3 mois par un groupe d'hommes connus pour appartenir à une bande dangereuse dans le centre du pays. Une pétition pour lui venir en aide a été lancée. Au total, 12 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire. D'après l'Association marocaine des droits humains, la police et le parquet marocain n'ont pas encore commenté le cas de la jeune femme. En Irlande, le pape François demande pardon aux victimes d'abus. C'était lors d'une messe géante à Dublin hier. Le souverain pontife s'est vu lui-même accusé d'avoir couvert un prélat soupçonné d'abus. Interrogé sur ses accusations dans l'avion qui le ramenait à Rome, le pape a refusé de les commenter. Aux États-Unis, 2 personnes ont été tuées et 11 blessées hier lorsqu'un homme de 24 ans a ouvert le feu lors d'un tournoi de jeux vidéo dans un bar à Jacksonville en Floride. David Katz s'est ensuite suicidé. Il était un concurrent du tournoi Madden NFL 19, jeu basé sur les matchs de la NFL, la Ligue nationale de football américain. L'Iran a plaidé ce lundi pour que la Cour internationale de justice traite avec une urgence extrême l'affaire engagée contre Washington au sujet du rétablissement des sanctions américaines aux conséquences dramatiques sur l'économie iranienne d'après Téhéran. En mai, le président américain Donald Trump a retiré son pays de l'accord sur le nucléaire signé par l'Iran et les grandes puissances en 2015. L'Iran s'y engage à ne jamais chercher à se doter de l'arme atomique. L'ONU demande que le chef de l'armée birmane et 5 autres hauts gradés soient poursuivis pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre à l'encontre des musulmans rohingyas. Dans un rapport, les enquêteurs de l'ONU affirment que la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi n'a pas utilisé sa position de facto de chef du gouvernement ni son autorité morale pour contrer ou empêcher le déroulement des événements. Les pourparlers sur la révision de l'accord de libre-échange ALENA se sont poursuivis hier à Washington entre les États-Unis et le Mexique. Le négociateur en chef pour le Mexique et les qualifiant de pourparlers de la dernière heure, le représentant américain au commerce Robert Lighthizer, qui était accompagné de Jared Kushner, le gendre du président Donald Trump, a brièvement indiqué qu'il n'y avait pas encore d'accord. En Australie, les autorités ont lancé des recherches pour retrouver un nombre inconnu d'étrangers en situation irrégulière dont l'embarcation s'est échouée dans une zone infestée de crocodiles. La force de protection des frontières n'a pas précisé s'il s'agissait de clandestins ou de pêcheurs illégaux. Et puis, hommage national aux États-Unis à John McCain. Les drapeaux étaient en berne dans la capitale américaine hier, au lendemain de la mort du sénateur républicain de l'Arizona, ancien pilote pendant la guerre du Vietnam et candidat à la Maison-Blanche au parcours politique tumultueux, mais aujourd'hui célébré quasi universellement. John McCain est mort samedi après 13 mois de lutte contre un cancer du cerveau et au lendemain de la cessation de son traitement. Il avait 81 ans. Et voilà pour ce journal. C'était Jacques Aristide à Washington. Tout à l'heure, vous retrouverez Henri Francisque. Très bonne journée.